Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien sur Transistor. Avec ce nouvel en spectateur, nous vous emmenons à la rencontre de la branche bâtarde, also known as la partie troupe de théâtre d'Ancène. Deux pièces de théâtre aujourd'hui, données en cantor, La visite de la vieille dame et Peer Gynt. Mais pas dans cet ordre-là. J'ai beau être historienne, je ne suis pas une fanatique de l'ordre chronologique. On commence donc avec Peer Gynt. Je salue nos chroniqueuses du jour. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Bonjour Caroline.
Bonjour maître.
On commence donc avec Peer Gynt, je vous disais. Pièce foisonnante. Vous prendrez bien un peu de résumé? Du texte d'Ibsen, dramaturge norvégien, la branche bâtarde n'a au fond supprimé que quelques épisodes, si j'ai bien compris. Ça date de 1866, mais attention, ça reste picaresque au possible. Dans la campagne norvégienne, un jeune homme, menteur, malhonnête et égoïste, se fait engueuler par sa mère. C'est Peer Gynt. La fille dont il a obtenu la main, c'est Solveig, ce qui ne l'a pas empêché de séduire une future mariée. Poursuivi par la furie villageoise, il atterrit chez le roi des trolls. Moment important, attention. Peer Gynt, pour épouser la fille du roi, doit renoncer à la vie des hommes et à leur devise « Sois toi-même ». Pour celle des trolls, « Suffis-toi à toi-même ». Il fuit. Adopter une queue de troll ne l'enchante pas plus que ça. Juste le temps de rentrer au village, accompagner sa mère mourante, et demander à Solveig de l'attendre. Nique la temporalité, nous voilà 20 ans plus tard. Peer Gynt a fait fortune dans la traite des Noirs, mais se fait doubler par ses associés. Peer Gynt se fait faux prophète, spécial dédicace à Adrien, en Arabie, mais il est volé par une danseuse du ventre. Peer Gynt se retrouve dans un asile de fous au Caire. Peer Gynt rentre en Norvège sur un bateau qui fait naufrage. Il rencontre alors, de retour dans son pays natal, l'énigmatique fondeur de boutons. Toute sa vie, Peer a vécu selon la maxime des trolls. Je vous rappelle, suffis-toi à toi-même. Il ne peut donc même pas aller en enfer, il n'est qu'un bouton mal fait, qui n'est pas resté identique à lui-même, il n'est qu'un bouton à refondre. Par trois fois, il obtient des délais supplémentaires auprès du fondeur de boutons, jusqu'à retrouver Solveig. Oh, elle l'avait attendu, c'est mignon. Et passer quelques derniers instants dans ses bras pour mourir. Ta-ta-ta-ta. Alors, on commence avec la chronique des absents. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas salué tout à l'heure. On commence avec la chronique de Lola.
Ah, la branche bâtarde. On attendait tous avec impatience les spectacles de la branche bâtarde, appelée théâtre d'Ancène, et ce moment est arrivé, un miracle de Pâques sans aucun doute. Alors, je n'ai pu voir la visite de la vieille dame, et j'en suis fort contrite, croyez-moi, chers auditeurs. Mais, je me suis dignement rattrapée avec Peer Gynt, œuvre au titre imprononçable d'Isbel. Alors, allons-y, on y va. C'est parti. Mais j'aimerais quand même vous dire que ce n'est pas facile la critique. Non, ce n'est pas facile, surtout quand on sait qui l'on juge et que ces mêmes personnes vous connaissent. Mais qu'importe, je suis objective et impartiale, je me lance donc... Oui, Marie, j'y vais. Arrête de me regarder avec ces yeux-là. Non, je te dis, je resterai fidèle à moi-même, enlève donc ce couteau de sous ma gorge. Peer Gynt, je vous l'avoue tout de suite, je l'ai découvert la semaine dernière, soit en même temps que la représentation. Dans ces cas, il est toujours difficile de se rendre compte de la fidélité de l'interprétation, de la mise en scène face au texte original. Et je pense que les très bons spectacles arrivent tout de même à vous emporter avec eux, que vous ayez lu ou non la pièce d'origine. Exemple parfait et même audacieux, l'adaptation théâtrale du roman Hugo, L'homme qui rit, qui nous a été donné d'aller voir en cantor, encore et toujours. Roman donc, que je n'avais jamais lu, mais spectacle hallucinant. La troupe joue en ce moment 93, allez-y. Avec Peer Gynt, j'ai eu l'étrange impression de me trouver à la frontière entre le théâtre magique et le contre-malaise. L'essence même de l'œuvre est complexe, pleine de nuances et de subtilités, parfois plus simplement grotesque et connue. Mais le personnage principal n'est jamais tout à fait répugnant, sans pour autant être absolument attachant. Peer, bon anti-héros, est de ces hommes qui, tels des anguilles, arrivent à se sauver de toutes les situations. Et le personnage est lui-même fabuliste, conteur et menteur, il plagie, ment, invente, refaçonne sa propre histoire, et passe même pour un prédicateur. Il se veut empereur, il sera celui des fous dans un asile. Concernant Peer, donc, je tiens à saluer la prestation remarquable d'Ulysse, qui nous a donné à voir quelque chose de très beau, de très touchant. Merveilleuse aussi la mère de Peer Gynt, superbe dans sa colère, merveilleuse dans son amour pour son fils indigne, très réaliste dans sa mort. Je tiens également à souligner le bonheur que j'ai eu de voir la musique s'entremêler au théâtre, donc musique de Grieg, qui effectivement s'entremêle très très bien dans la mise en scène, et là, chapeau vraiment pour cette mise en scène. Mais voilà, un spectacle ne se réduit pas à quelques rôles, même si celui de Peer Gynt est bien sûr le fil rouge de toute l'œuvre et de la mise en scène proposée par la branche bâtarde. S'il est certain que j'ai adoré le début ainsi que la fin du spectacle, je me permets d'émettre quelques réserves quant aux suites d'imprimes qui composent un bon tiers de la représentation. Père, en Candide moderne, quitte sa terre nordique natale et voyage à travers le monde. Tandis que le début proposait un espace et un temps plus clos mais logique, ordonné et concret, quoiqu'à la frontière toujours entre temps humain et monde du conte avec Étrolle, ce même ordre que l'on retrouve comme un effet pervers à la toute fin, lorsque Père cherche à prouver qu'il a toujours su rester intègre à lui-même, eh bien le milieu me laisse très franchement perplexe. Je comprends qu'il fallait faire jouer tout le monde, je rappelle qu'il s'agit d'un spectacle monté par l'atelier théâtre en scène, que les rôles secondaires s'enchaînent, histoire de faire passer chacun sur scène, plus ou moins à temps égal. Oui mais voilà, sans renier le talent de tout un chacun, je déplore le découpage des scènes. Chaque acteur est bon dans son rôle. Il ne servira à rien de faire le détail du jeu, fluctuant d'un acteur à un autre, globalement, c'était plutôt beau. Mais c'est l'ensemble qui me semble décousu. Arrive un moment où on ne croit plus au personnage de Père, non pas parce que le niveau de l'acteur baisse, mais parce que l'engrenage lancé à partir de son départ de Nantège est de plus en plus décousu. Le compteur invétéré, Père semble pris à son propre piège, coincé dans une avalanche de situations à la Candide. J'imagine que c'était le vœu premier d'Isbène, j'entends bien. Il faut donc se rendre à l'évidence que c'est la mise en scène qui ne m'a pas emporté avec elle. Les scènes se ressemblent toutes, les effets comiques, portés par un rythme très dynamique, sont savoureux, mais si nombreux qu'on risque parfois l'indigestion. Je soulignerai tout de même le rôle incroyable de la plume, ou encore cette phrase « Pourquoi être gay quand tant de générations disparaissent ?» incomprise. Mais il ne suffit pas d'avoir de belles paroles et des situations de peau comiques exquises pour satisfaire le spectateur. Encore faut-il savoir doser. Oui, j'y reviens toujours. Et dans ce cas, malheureusement, je trouve qu'une décélération de temps à autre n'aurait pas été de trop. Une telle pression peut s'expliquer facilement. Personnellement, je tiens à faire remarquer qu'une salle comble, bourrée d'amis et de proches, n'est pas toujours. Même, cela peut influencer le spectacle. J'ai trouvé fort dommage que des rires aient fusé à des moments très forts, plus tragiques que véritablement risibles. Mais que voulez-vous, quand c'est quelqu'un que vous connaissez qui vous enseigne ? Voilà, la morale de cette histoire, supposé qu'il en est une, et que ce que je vous raconte est une histoire, deux choses dont je doute terriblement, c'est qu'on ferait bien de croire, pour une fois, père. Restons cohérents, restons intègres à nous-mêmes.
Merci Lola. On poursuit avec Caroline.
L'improvisation qui va suivre sera de type accéléré, fourre-tout et de catégorie chronique à la radio. MC ?
Oui, donc pour la catégorie, je pense qu'on se comprend. Accéléré, fourre-tout signifie que nous allons compacter toute la pièce en quelques minutes et l'arbitre interviendra sans cesse pour faire rentrer des gens, imposer de nouvelles contraintes et réorienter l'histoire.
Ouais, histoire de pas faire mourir le public d'emmerdement. Le thème, Père Gunt.
Mais qu'est-ce que c'est ? Animal, minéral ou végétal ? C'est un nom, bande d'incultes !
Et toutes les dérives oedipiennes qui suivent lorsque sa mère Az et sa copine Solveig l'appellent père sont offertes par la maison. Durée, 7 minutes.
Oh là là, c'est long !
2 jouteurs sur scène, mais le nombre de jouteurs final est illimité, dans la limite des Carolines disponibles. Nombre de personnages illimité, dans la limite des schizophrènes disponibles. Vous êtes prêts ?
Ah bon, pas de caucus ?
Et puis quoi encore ? Est-ce que j'ai l'air du Père Noël ? Ho ho ho. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, pro !
Mais mon enfant, que fais-tu avec ces chaussures ?
Mais non maman, tu vois pas que c'est un bouquetin ?
Ah non, je te jure que tu tiens une godasse là !
Refus !
Ah tiens, autant pour moi, il va être temps de changer de lunettes. Mon fils, au lieu de raconter tes histoires de bouquetin, tu ferais mieux de songer à te marier. Ingrid en pinçait pour toi, et voilà qu'elle va donner sa dot à un autre. Si seulement tu t'étais bougé le derrière, on ne vivrait pas sur la scène du théâtre Cantor. En plus, sa branche bâtarde n'a plus d'argent.
Vraiment, tu crois que j'ai mes chances ?
Oui, enfin la noce a lieu en ce moment même, donc il est peut-être un peu tard.
2 minutes plus tard, à la noce. Public, je voudrais un objet, une roue, très bien. Maintenant l'adjectif, vieille, parfait.
Tiens, mais ne serait-ce pas la douce mélodie d'une vielle à roue que j'entends ?
Je vais chercher Ingrid et... Coup de foudre. Oh mon dieu, c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. Je suis fou amoureux depuis toujours. Solveig, tu es si blonde et si adorable et je...
Pourquoi fais-tu cette grimace ?
Je ne suis pas Solveig, je suis un troll qui s'apprête à bouffer ta jambe, ça ne se voit pas ?
Ah bah maintenant que tu le dis, et tu tangues parce que...
Bah parce que je suis un marin qui s'apprête à se noyer. Non, ça c'est un anachronisme. Ah oui, pardon.
C'est sûrement la malédiction lancée par les trolls qui me fait voir la même actrice dans des personnages différents. D'ailleurs, monsieur le vieux de Dovres, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu ailleurs. Vous ne seriez pas à Transistor, vous n'auriez pas vu aussi une autre fille humaine nommée Ingrid, que j'aime bien me balancer par terre parce que je suis un être torturé ?
Je n'en ai pas dit toute quoi tu veux parler ! Hop là, conception immaculée, tu seras papa dans 9 mois, ciao !
Mais que s'est-il passé ? Où suis-je ? Pourquoi cette chemise hawaïenne ? Je suis...
Avec des armateurs.
Avec des armateurs, en effet, et nous, contraintes, faites un accent suédois.
Ah, c'est grâce à l'acier allemand que nous pourrons nous porter au secours des Grecs assiégés. J'ai dit suédois.
But, est-ce que ce serait pas mieux? Comment dirais-je? J'ai de la diplomatie, pourrais-je dire, afin de peut-être...
Suédois! Vous êtes bouché ou quoi?
Faute! Mais si on sait pas à quoi ressemble l'accent suédois, on fait comment?
Je sais pas, moi, on se téléporte en Arabie Saoudite et on fait une danse du ventre, allez-y, quoi. Oh, le bonheur d'être prophète, il n'y a que ça de vrai pour être soi-même. En Égypte, à une autre époque. J'ai décidé d'inventer le voyage dans le temps et dans l'espace parce que j'ai décidé. Un prototype schizophrène à la manière d'enseigne. Je suis une plume! Trempez-moi! Je suis tout en camon et je porte le pharaon sur mon dos. Mon précieux, ils vont me voler la vedette, espèce de voleur. Cliché!
Mais non, on aime bien ce genre de référence.
Oui, mais c'est quand même un cliché.
Mais pourquoi on est obligé d'être méchant?
Parce que c'est le rôle de l'arbitre, t'es.
Mais tu t'es pas trompé de voix, toi?
Ah ouais, merde. Arbitre, c'est un métier.
Veuillez nous excuser, l'arbitre a oublié de prendre ses médocs, ça arrive, hein.
Bouquetin, armateur, troll, pharaon, koala, camoulox. Je ne suis pas folle, vous savez. Bonsoir.
Je vais donc le remplacer pendant que de gentils messieurs en blanc lui mettent une camisole. Et donc, un pro de premier degré, à la manière d'une dissertation de philosophie, perdre son âme.
Il me faut le certificat d'un prêtre pour aller en enfer plutôt que dans le néant. Oh, un prêtre! Mais non, je suis le diable, tu ne vois pas mon pied fourchu? Damned, c'était un piège! Et vous, vous êtes qui? Je suis le fondeur. Il va falloir rentrer dans ma louche. Bon, ouais. Bon, pour me dire que c'est un sifflement. J'ai dit premier degré, le public se tord de rire, ça ne va pas du tout. Allez, séquence émotion, la mort du héros, une minute. Hélas, je suis un bouton raté et l'on va me fondre. Ouais, ça va pas le faire. Fond sonore musical, le fantôme de Solveig par exemple.
The winter may pass and the spring disappear, the summer too will vanish and then the year, but this I know for certain, you'll come back again, you'll come back again. And even as I promise, you'll find me waiting then. You'll find me waiting then.
Temps écoulé. Bon, je crois qu'on a des petits problèmes à être soi-même en ce soir, hein. Il y en a qui n'ont pas pris leur médoc.
Mais non, c'est pas vrai.
Mon précieux. Pardon, cliché. Bon, l'arbitre a beaucoup sifflé, mais l'arbitre a été impressionné par les performances physiques. Parfois, un peu plus d'émotion aurait été bien au milieu des explosions de rire, mais enfin, soyons pas difficiles. Procédons au vote. Quoi? Cette chronique était écrite? Mais c'est une honte! En ces conditions, changeons la donne. Votez main ouverte pour sauver Caroline, point fermé pour la pendre haut et court. Prêt? 3, 2, 1, votez!
Merci Caroline, toute allusion au fait que nous comptons peut-être un jour faire un numéro d'En Spectateur sur le club improvisation serait parfaitement fortuite. On écoute maintenant Mathilde.
Dieu qu'il est difficile, chers auditeurs, d'écrire la critique d'une pièce telle que Peer Gynt. Oui, comment vous livrer mes impressions lorsque le temps de la représentation n'a étrangement pas été celui de l'esquisse d'un brûlot agacé pour En Spectateur? Comment y parvenir dès lors que j'ai été jeudi dernier au soir, bien trop occupée à rire, voyager, à me délecter du plaisir infini qu'il peut y avoir, parfois, à vivre En Spectateur? Oui, bien trop occupée pour relever les divers écueils de la dite pièce. Car, à trop y penser depuis, la colère qui m'anime parfois en ce studio ne tarde à me submerger à nouveau. Assister à une pièce entièrement et si justement jouée par des acteurs amateurs, très professionnellement mis en scène en revanche, ne l'oublions pas, ne peut qu'accroître ma détestation de ce que certaines compagnies peuvent parfois avoir à proposer. Qu'importe si l'acteur qui incarne le personnage éponyme trébuche très fréquemment sur ses mots, qu'importe la diction parfaite, voire lisse, lorsque le talent de la troupe tout entière nous submerge. Comment ne pas se laisser entraîner dans cette ronde norvégienne folle et folklorique, quand la salle est baignée par une approbation qui va bien au-delà de la simple sympathie pour nos camarades de l'école, mais qui s'appuie sur un rire incessant et authentique. Le rire, nous y voilà. Je mets le doigt sur ce qui a fait cette pièce, acclamée par des applaudissements qui explosaient parfois sans crier garde en plein durant la pièce. Peer Gynt est une farce, affirmation qui n'est en rien teintée de mépris en ce qui me concerne. Bien au contraire, la pièce redonne ses lettres de noblesse au genre. Le rire n'est jamais ici instrumentalisé. Pas de comic relief qui structure la pièce, il ne s'agit pas de caser intelligemment la bonne vanne qui kidnappe l'attention du spectateur. Non, Peer Gynt, si bien par son écriture, par la plongée dans l'absurde, le merveilleux qu'il propose, que par sa mise en scène et le jeu des acteurs, ne recule pas face au risque que le spectateur hilar ne reste qu'à la surface de ses enjeux. Si je devais tout de même reprocher quelque chose à la pièce, c'est de s'expliquer un peu trop dans ces dernières scènes. La métaphore du bouton perd de sa délicieuse saveur à trop être décortiquée. On aurait très aisément pu comprendre que la pièce, ayant beau être une farce grotesque, est également une réflexion métaphysique sur la permanence intime d'un personnage qui peine à trouver son identité au cours de ses voyages délirants dans un univers semi-merveilleux. Très heureusement, Peer Gynt n'a que très marginalement péché par auto-explication. La pièce, pour faire sentir la profondeur de son absurdité, n'a pas eu besoin de créer une ambiance froide et stérile. Et c'est tant mieux.
Merci Mathilde. Comme à notre habitude, je vais demander un mot. Sauf que cette fois, je ne vais demander un mot qu'à une seule de nos chroniqueuses. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, amstram, gram. Caroline, c'est toi.
Oh là là, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, du coup, je vais faire deux mots pour le mot auquel Mathilde n'a pas droit. Le mot bête, ce serait plume. Je suis une plume, trempez-moi. Parce que c'était quand même le grand moment du spectacle. Et le mot intelligent, ce serait foisonnant. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer?
Non, ça devrait aller.
Je suis jalouse parce que j'ai pas pu dire de mots.
Eh bah tant pis pour toi. Bref, on arrête de délirer, on revient aux choses sérieuses. Enfin, si tant est qu'avoir une discussion sur Peer Gynt peut être sérieux, tant, vous serez d'accord avec moi, cette pièce était absurde. Mais génial. Alors, Lola avait mis dans sa critique une petite réserve concernant le rythme de la pièce. C'est vrai que le rythme est quand même assez effréné, les tableaux se succèdent assez rapidement, on bouge beaucoup autour du monde et on se retrouve dans des situations complètement rocambolesques. Ça vous a gêné ?
Alors je pense que ça aurait été une mauvaise mise en scène si ça n'avait pas été le cas. Alors je tiens à préciser que je n'ai absolument pas lu la pièce, je n'en connaissais même pas l'existence avant d'avoir assisté à leur présentation. J'ai bien aimé, alors est-ce que c'est Lola qui a fait la référence à Candide ? Oui. Du coup je peux pas m'empêcher de le voir autrement qu'à travers ce prisme maintenant. Et j'ai vraiment l'impression que c'était un choix délibéré, cette succession de tableaux un peu infernale, et je pense que ça aurait beaucoup perdu de sa saveur. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il n'y ait pas un rythme structuré entre une blague par-ci, un moment plus triste par-là, une intrigue avec plus traditionnelle du point de vue de la construction. J'ai aimé cette succession de tableaux un peu incessante, et je pense que c'est ce qui faisait le charme de la pièce, et c'était son absurdité.
Alors moi je suis d'accord, ça m'a pas gêné du tout sur la structure, donc cette succession de tableaux, ce côté complètement délirant, puisque j'avais l'impression que ces gens pouvaient me comprendre, qu'ils étaient aussi fous que moi. Et franchement, c'est pas gênant que ce soit décousu du moment qu'il y a une énergie qui se produit tout au long du spectacle. Après, c'était un peu long, c'était pas très long à la tôt ou tard, quoi. C'était pas long chiant, mais c'était pas long légèrement ennuyeux, mais quand même la salle était bondée, il faisait chaud, personne n'avait ouvert une porte. Au bout d'un moment, on commençait à bouillir un peu, et moi mon cerveau se liquéfiait entre mes oreilles, quoi. Donc peut-être qu'il y a certains passages au milieu qui auraient pu être écourtés. Bah, par exemple le moment de la maison des fous, genre c'est le moment où on se roulait par terre tellement c'était drôle, mais c'était un peu disproportionné par rapport à d'autres séquences. Bon, vu qu'on rigolait quasiment tout le temps, ils auraient pu sacrifier certains trucs, parce que surtout le fait de jouer des fous et tout ça, enfin c'est excellent, mais c'est parfois un petit peu facile. Enfin, je veux dire, moi ça marche du tonnerre, mais je sais au fond qu'on peut faire des blagues plus subtiles, et notamment tout le truc, moi, où avec le fondeur et sa louche, moi j'étais plié en quatre là, et je trouvais que c'était un peu plus subtil. Pas le rythme en lui-même, mais peut-être sur la longueur, au milieu, je suis un peu d'accord avec Lola, mais pas complètement, je suis aussi d'accord avec Mathilde, bien sûr.
Merci pour cette réponse schizophrène.
Non, pas du tout.
Alors, c'est vrai que du coup, tu parlais de la subtilité. C'est vrai qu'en même temps, il y avait quand même beaucoup de subtilité dans le texte. Disons, il y avait un certain nombre de répliques qui étaient quand même complètement what the fuck. Et de ce point de vue-là, c'est quand même un texte très écrit. Je sais pas quelle traduction ils ont pris, mais il y avait vraiment une invention verbale assez folle et délirante, et quand même extrêmement drôle en même temps.
Oui, on est d'accord.
Revenons à des préoccupations plus prosaïques. Alors on sait que la branche bâtarde, donc évidemment ce sont des comédiens amateurs qui ne les empêchent pas de faire des choses de très bonne qualité, et notamment les décors étaient quasiment inexistants, tout était laissé à notre imagination. Il y avait des costumes, mais au niveau des décors, c'était vide, on pourrait dire épuré, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Sachant qu'on peut imaginer qu'il y a une contrainte technique, mais on peut imaginer que c'était aussi un choix.
Moi, sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Mathilde dans sa chronique, c'est-à-dire que je savais, parce que moi, comme Lola, j'ai des contacts auprès des acteurs, je savais qu'ils n'avaient pas de moyens et qu'ils faisaient avec les moyens de bord, mais du coup, ça avait vraiment un charme, comme quand ils faisaient le bouquetin avec ses chaussures, enfin, je savais qu'ils devaient faire avec ce qu'ils avaient, mais du coup, enfin, la façon dont eux, ils le faisaient, c'était pas prétentieux, c'était au contraire, c'était plein de vie, c'était plein d'énergie, alors qu'effectivement, il y a des compagnies professionnelles qui ont les moyens et qui vont faire exprès un décor épuré, noir et blanc, pour exprimer le néant de l'existence humaine à l'époque contemporaine, et là, c'était pas du tout le cas. Et au contraire, je pense que leur manque de moyens leur a servi dans la mise en scène. Même si, du coup, après, ils ont fait la quête à la fin, comme des pauvres malheureux.
Oui, c'est vrai qu'en particulier, tu parles de la godasse qui sert de bouquetin. Ça m'a un peu fait penser à l'homme qui rit et le gant qui sert de loup.
Moi, je n'étais pas particulièrement... Je m'étais posé aucune question sur le manque de moyens de la pièce. Je pense que ça se prêtait particulièrement à ce texte-là de faire quelque chose de très épuré, parce que justement, dans le texte, on pourrait imaginer... c'est le genre de pièces, je pense, qui sont assez difficiles à mettre en scène, parce qu'il y a un nombre de tableaux qui serait absolument énorme à faire si on devait vraiment construire des décors. Et je me demande même si ça irait pas un petit peu presque limiter l'imagination du spectateur. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on était... on était complètement entraînés dans notre propre imagination. On avait énormément de décors à s'imaginer soi-même. Je pense vraiment que le carton pâte n'aurait absolument pas aidé notre imagination.
Mais oui, c'est vrai, puisqu'en plus, c'est une pièce qui parle d'histoire. Enfin, Pergune, c'est un conteur, un menteur probablement. Donc c'est le cœur de l'histoire, donc il y a une coïncidence parfaite entre le décor et le sujet.
Voilà, et puis cette espèce de dimension de conte qui est un espèce de non-pays finalement. Non, Mathilde, ne commence pas à nous parler de ton mémoire. Comme le disait Caroline, on était absolument mort de rire pendant toute la pièce. Ça n'empêche pas quand même qu'il y avait des espèces de séquences émotions. Je pense en particulier à l'agonie de la mère de Pergunte. Qu'est-ce que vous diriez de la place de l'émotion dans cette pièce ? À quel point c'était dosé et à quel point c'était pertinent de réintroduire comme ça de l'émotion dans une pièce qui est quand même avant tout une grande aventure rocambolesque et une grande farce.
C'est étrange parce que je n'ai pas du tout l'impression que l'émotion est absente hors de ces moments assez nostalgiques, assez mélancoliques, avec l'agonie de la mère. Il me semble que l'émotion, elle est omniprésente par le rire de toute manière. Donc on est toujours dans quelque chose qui inclut l'émotion, qu'elle soit joyeuse ou qu'elle soit plus triste. Il me semble que voilà, tout ce qui va réunir tous ces aventures rocambolesques très décousues, c'est l'émotion, quelle que soit sa forme. Et la mélancolie, la tristesse n'avaient pas du mal à trouver sa place, il me semble.
Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un bon équilibre vers le début, surtout parce qu'on avait ces séquences où il raconte des histoires, où il se met à mimer des choses. Et effectivement, la mort de la mère qui est extrêmement bien jouée, et une vraie séquence d'émotion. Mais après, vers le milieu, comme vraiment on a péripétie après péripétie, on n'arrête pas de changer d'endroit tout le temps. Oui, il y avait de l'émotion dans le rire, mais... Enfin, je pense que j'étais pas la seule à sortir d'une longue, longue journée. Et du coup, par moments, c'était un rire à la limite de l'hystérie, quoi. Enfin, je riais parce que mes nerfs commençaient à lâcher aussi. Et tu vois, enfin, la séquence des fous, n'importe quoi m'aurait fait rire, quoi. La plume, oui, c'était bien, mais tu m'aurais dit crayon, je me serais mis à rire, quoi. Et du coup, je trouvais que ce côté nerveux qui pouvait apparaître au bout d'un moment, enfin, la chaleur, les gens et tout ça, ça faisait que vers la fin, les plusieurs séquences où donc Solveig se met à chanter, qui sont des moments très, très beaux, on n'a pas le temps de rentrer dedans. Enfin, on est un petit peu, on commence à rentrer dedans, puis la séquence est finie, on repasse, ah, il y a le diable, ah, il y a le mec avec sa louche. Et ouais, la toute fin, enfin, je trouvais qu'on avait un peu perdu l'émotion du début. Mais c'était très beau quand même, et puis c'est difficile à faire.
Alors, une petite question pour conclure. Si je vous offre à nouveau un ticket pour cette chevauchée fantastique, est-ce que vous repartez avec Pergunte, Mathilde ?
Ah oui, oui, c'est exactement comme les montagnes russes qu'on a envie de faire 5 fois d'affilée. C'est exactement comme ça. Je repars, je remonte à bord, pas de problème.
Et Caroline ?
Tout à fait d'accord. Et tu peux même m'en offrir plusieurs, je serais pas contre. Tu vois, j'irai le voir toute une semaine de suite, je pense, comme les montagnes russes, jusqu'à en vomir s'il le faut sur les montagnes russes, pas pour la pièce.
Je suis allée le voir le jeudi soir, je tiens à préciser que j'ai vraiment hésité à y revenir le vendredi. La seule chose qui a fait que je n'y suis pas revenue, en fait, c'était parce que il y avait déjà extrêmement peu de place et je me suis dit que c'était dommage de priver d'autres personnes de la pièce.
Merci à toutes les deux.
La visite de la vieille dame, une adaptation de La branche bâtarde. Atelier théâtre d'Ancelle. En allemand, ça sonne quand même mieux. Der Besuch der alten Dame.
Pas mal.
Ah, c'est beau, hein. Deux siècles de philologie dans les dents, une phrase. De Friedrich Dürrenmatt.
Friedrich Dürrenmatt.
Friedrich. Ah bah oui, Friedrich, c'est beau. Friedrich, c'est beau comme prénom. C'est à la mode en ce moment.
Il y a un mec qui s'appelle Nietzsche, c'était
ouais,
pas mal.
Ouais, il y a un mec comme ça. Non mais ça va bien pour les bobos, ce genre de prénom. Friedrich. Donc la pièce date de 1955, trois actes, assez classique, hein, sous-titré Ein Phrasische Comédie. Ah, donc ça fait rire et à la fois, bah, ça fait un peu pleurer. Je fais un petit résumé au début parce que je suis le seul à avoir été, à avoir eu des places VIP. Hein. J'ai dû laisser Marie à la porte, malheureusement pour elle, alors qu'elle était en train de quémander une place avec son chéquier. Alors, je vous fais un petit résumé. Après des décennies d'absence, Claire Zahar-Massian revient à Gulen, la petite ville de son enfance, pour y fêter ses noces avec son 8e mari, si je me souviens bien. Je crois qu'on a 8, ouais. Ça commence à faire pas mal. Tu l'as rattrapé, Lolin. D'accord. Toute la communauté espère que la richissime vieille dame relancera l'activité de la ville plongée depuis longtemps dans la misère. Ce n'est pas une chronique du nord de la France, donc ça se passe en Suisse. Mais si elle accepte de céder 1 milliard à la communauté, c'est à une seule condition, c'est que l'on tue Alfred Hill, son amour de jeunesse, qui, si je me souviens bien, l'a mise enceinte, enfin lâchement abandonnée, comme une vieille serpillère, ça. Donc, bannie par une morale hypocrite, elle a vécu hantée par son désir de vengeance. Donc, elle est aujourd'hui décidée à accomplir. Tout au long de cette épopée, la moralité de la vieille dame va contaminer la ville entière. Comme dans un conte moderne, suivant sa propre idée de la justice, elle va déclencher une véritable chasse à l'homme. Voilà un peu le résumé de la pièce. Ça, c'était épique, hein. Que j'ai retenu, et surtout, après ça, je vous donner les points forts, à mon avis, de cette pièce. C'est à mon avis, quand même, la performance des acteurs, qui est quand même assez charmée, il faut le dire. Alors, surtout, la personne qui joue Claire, il me semble que c'est une nonne. Alors, surtout, celle qui joue Claire, qui a travaillé vraiment minutieusement son rôle, la voix, la gestuelle avec la canne, la jambe de bois, les mimiques de visage. Et j'ai été assez bluffé, parce que j'ai pas du tout reconnu, j'ai vraiment cru que c'était, ils avaient embauché une vieille, à Gerland, un truc, c'était complètement fou. Je crois que j'avais mes lunettes, hein. C'est pas faute de mais j'ai vraiment j'étais complètement bluffé par sa performance. J'ai vraiment cru que c'était quelqu'un d'autre. Je pensais vraiment que ça avait embauché une comédienne extérieure. La deuxième performance très bonne, c'est celle d'Alfred. Donc au niveau du costume, la barbe grise, les haillons, le maire aussi est très bien avec sa petite queue de cheval, son air un peu précieux. Enfin vraiment chaque personnage a des mimiques particulières. Et même si il y en a beaucoup, il doit y avoir une quinzaine quand même de personnages dans la pièce, et ces mimiques font qu'on arrive vraiment à. On s'attache déjà à eux et puis on arrive à les restituer très très facilement. Ils ont tous des manières de parler assez différentes, des habits un petit peu particuliers, voilà, leurs petites touches personnelles. Et tout ça, c'est vraiment fait très très bien, on arrive à les reconnaître. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'utilisation du décor, notamment du bar. C'est important d'avoir un bar, pas que au théâtre. Mais pour le coup, c'est très bien. Parce que quand les personnages arrivent au comptoir, on se sert des verres, il y a une sorte d'un peu de chaleur, d'ambiance chaleureuse qui est de connivence avec le public, on se croirait presque en fait à la café. L'utilisation du décor aussi, même les personnages eux-mêmes, par exemple les trois femmes du début qui discutent et qui font un peu des ragots, finalement se retrouvent à jouer les arbres de la forêt en plein milieu de la pièce, à faire des petits bruits, des petits cuicuis, tout ça, mais je trouve ça très très drôle, ça mettait bien l'ambiance, ça m'a bien rigolé. Et le troisième élément du décor assez intéressant, c'est le perchoir qui est au-dessus de la scène, qui sert normalement, je crois, à éclairer la scène avec les lumières, etc. Et en fait, ça a servi de balcon. Dans la pièce. La vieille dame loue à un moment une chambre dans un hôtel, elle s'installe au balcon et elle regarde la ville s'enfoncer dans le désespoir et toutes les médisances entre les personnages installés, elle commente ça, c'est vraiment très très drôle. On la voit au-dessus qui contemple ça pendant une bonne vingtaine de minutes et j'ai trouvé que c'était très très bien utilisé. Les points faibles de la pièce, c'est assez dur d'en trouver déjà parce que j'ai adoré, donc j'avais du mal un petit peu à... C'était bien si quelqu'un m'avait suivi sur ce coup-là, mais malheureusement je trouve ça. Peut-être un petit peu de longueur sur la fin, la scène de finale était chantée un petit peu faux, mais à la limite on s'en moquait parce que c'était tellement c'était tellement drôle, les gens avaient tellement de bonne humeur là-dedans qu'en fait on s'en moquait. Puis c'est pas grave de chanter faux, hein. Comme le punk rock, pourquoi ça rajoute un peu de touche, tu vois. C'est important de chanter faux, mais pas que ça trollisse pas Star Academy, hein. Merde, c'est mon cri. Donc ce que j'ai retenu en fait, c'était qu'il y avait des gens qui s'amusaient beaucoup en fait à faire ça, et je pense que le public l'a partagé. Prenez pas au sérieux, mais ça empêchait pas d'avoir une réflexion assez profonde. On a une vision intérieure de la Suisse des années 50, ce qui n'a pas changé depuis maintenant, et peut-être possible de voir. Une très bonne performance, une mise en scène tout à fait originale. Bon, ils ont quand même embauché, si je me souviens, une professionnelle pour faire la mise en scène. Senti, hein, mais ça gardait une simplicité, vraiment une simplicité de jeu, etc. Parfait. Et je voulais quand même mettre une petite note pour la fin. C'est que la branche bâtarde s'est fait couper la moitié de ses fonds, il me semble, cette année. Donc ils ont un petit peu de mal à rendre toute leur pièce publique. Donc comme c'est très bien, c'est sympa de leur filer 2-3 euros à la fin. Parce que ça leur permet de continuer de faire des jolies pièces comme ça tous les ans. Et puis tout simplement parce que c'est une meilleure pièce et c'est américain, à mon avis, contribution. Voilà, donc pour finir, une très belle pièce. Merci à vous tous. Continuez à écouter du métal.
chers auditeurs, il est temps de refermer ce numéro spécialement consacré à la branche bâtarde et à ses productions en cantor.
On aime la branche bâtarde !
Nous reviendrons prochainement donc dans En Spectateur. On essaiera de couvrir début mai Orphée Infernal et mi-mai Massacre, tous les deux donnés en cantor. D'ici là, surtout, n'oubliez pas de soutenir la branche bâtarde, ils en ont vraiment besoin et ils sont vraiment géniaux et on les aime tellement. Bon, et surtout, d'ici là, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre
En Spectateur !